Place publique.
La sécurité de la Suisse passe-t-elle par une révision de la loi sur les armes? C'est notre débat de ce soir en vue de la votation du 19 mai. Plusieurs invités sont en direct avec nous depuis Delémont, Tavannes, Marin et Berne. Rien que ça, bienvenue.
Jusqu'à 19h, place publique. Gabriel Devecq.
Bonsoir à tous et j'ai le plaisir de vous présenter nos invités. Pierre-Alain Fridet, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes conseiller national socialiste du Racien, vous êtes notamment membre de la commission de sécurité. Avec nous également Claude Frey, bonsoir.
Bonsoir monsieur.
Bien connu aussi, conseiller national, ancien conseiller national, mais aussi actuellement président du comité neuchâtelois contre la révision de la loi sur les armes. C'est en cette qualité-là, bien sûr, que vous êtes avec nous. Également présent, Pierre-Alain Béret, bonsoir.
Bonsoir.
Vous dirigez la Chambre de commerce et d'industrie du Jura, soyez le bienvenu. Et Germain Beuclair aussi présent à Tavannes. Bonsoir Germain Beuclair.
Bonsoir.
Vous êtes représentant des tireurs du canton de Berne pour la partie francophone. Et on accueille aussi Jérôme Favre, l'un de nos correspondants au Palais fédéral. Bonsoir Jérôme.
Bonsoir.
Alors, à noter que nous entendrons également deux personnes qui sont enregistrées, si on peut dire, qu'on a rencontrées dans le cadre de ce débat. Félicia Ernst, tireuse sportive de Val-de-Ru, directrice de cours pour jeunes tireurs, ainsi que Pascal Lutti, commandant de la police neuchâteloise. Voilà pour les présentations. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous propose un rappel des principaux enjeux de cette votation. Alexandre Rosset, de quoi est-il question dans ce projet de nouvelle loi ?
En tant que membre de l'espace Schengen et Dublin, la Suisse est appelée à adopter les nouvelles règles européennes sur les armes. Ces nouvelles directives antiterroristes visent surtout à mieux encadrer l'accès aux armes semi-automatiques qui permettent de tirer plusieurs coups d'affilée. Ce type d'arme a été mis en cause notamment dans les attentats commis ces dernières années à Paris, Bruxelles ou Copenhague. Si les votants disent oui le 19 mai prochain, la nouvelle loi sur les armes prévoit que les commerçants d'armes devront déclarer tous les achats et ventes d'armes ou d'éléments d'armes. Cette meilleure traçabilité dans l'ensemble des États de Schengen doit permettre de mieux lutter contre le marché noir. De plus, l'acquisition d'armes semi-automatiques sera assortie de conditions plus strictes. Le tireur devra prouver ponctuellement qu'il est membre d'une société de tir ou qu'il pratique régulièrement cette discipline. En revanche, il sera toujours possible de garder son fusil d'assaut à domicile après le service militaire. Rien ne changera non plus pour les chasseurs.
Mais Alexandre, cette nouvelle loi fâche le milieu des tireurs.
Oui, les tireurs et leur communauté d'intérêt combattent cette nouvelle loi. Ils estiment que ces nouvelles règles sont inutiles pour lutter contre le terrorisme car elles n'empêchent pas l'utilisation d'armes illégales. Pire, ce projet mettrait en péril un pilier de l'identité suisse, soit le droit de posséder une arme car soumis à de trop lourdes contraintes administratives. Cette avalanche de formalités découragerait les tireurs et détournerait la police de tâches plus importantes, sans parler des coûts supplémentaires à la collectivité.
Des arguments rejetés par le Conseil fédéral et par le Parlement qui soutiennent cette nouvelle loi.
Pour le Conseil fédéral, cette législation révisée assure la sécurité de la population face à l'utilisation abusive des armes, tout en préservant la tradition du tir. Le gouvernement estime que les modifications apportées sont opportunes, surtout que la Suisse a pu éviter qu'elles ne soient trop restrictives. Les nouvelles formalités administratives imposées aux possesseurs et utilisateurs de certaines armes sont raisonnables, compte tenu de l'enjeu lourd de conséquences. Quitter l'espace de Schengen-Dublin, jugé crucial pour notre sécurité, pour notre système d'asile et notre économie, pour des pertes estimées à plusieurs milliards de francs.
Merci Alexandre. On vous retrouve Jérôme Favre. Alors si on regarde un peu les rapports de force durant cette campagne, on voit que l'UDC fait quasi cavalier seul avec les tireurs.
Oui, c'est presque un scénario qu'on a déjà vu et revu, mais effectivement, l'UDC est un peu seul contre tous, si on parle du plan strictement politique. Si on regarde vraiment d'où vient le référendum, le référendum, vous l'avez dit, ce sont les milieux du tir, alors les milieux du tir sportif, avec le soutien des chasseurs aussi. On a aussi rencontré, lors de la défense des arguments des opposants, des policiers, des officiers ont aussi certaines fois pris la parole, qui ont donc, avec, donc, ce qui veut dire aussi des milieux pas directement concernés par le texte en présence, avec l'appui unanime à l'Assemblée des délégués de l'UDC à une abstention près. Et en face, on trouve, d'ailleurs on les retrouve aussi ce soir dans ce débat, les milieux économiques, surtout, sont même eux qui ont lancé la campagne après le Conseil fédéral et avant les partis, plus tous les partis sauf l'UDC, mais L'engagement n'est pas toujours très net dans les partis, notamment bourgeois, au PLR et au PDC, parce que certains sont aussi un peu gênés vis-à-vis des chasseurs et des tireurs de leur canton. Il ne faut pas oublier qu'au mois d'octobre, nous avons des élections, ce qui peut peut-être expliquer une attitude parfois timorée de la part de certains dans leur engagement.
Difficile de voir aussi ce que va donner cette votation. Les sondages sont contradictoires.
Les sondages sont contradictoires, mais il y a quand même une tendance qui est assez nette si l'on prend le sondage de l'Institut GFS Bern qui a paru vendredi dernier, qui nous donne 66% de oui à cette loi contre 33% seulement de non, avec 1% d'indécis. C'est peut-être ça qui est aussi le plus intéressant, c'est que les avis ont l'air relativement tranchés. Et peut-être que là, ce qu'on peut signaler par rapport à ce sondage de GFS Bern, je me permets d'insister sur celui-ci qui est souvent assez proche de la vérité au final, c'est que les arguments qui portent le plus, ce sont du côté des partisans de la loi, le fait que la protection de tous est supérieure à la liberté de porter des armes et que finalement l'impact sur les tireurs n'est pas si grand. Tandis que du côté des opposants, bien finalement, il n'y a aucun argument qui ne retient ou qui ne recueille vraiment une majorité, mais ce qui convainc le plus, c'est la critique qui dit que le Conseil fédéral a plié devant l'Union européenne.
Merci Jérôme. On vous retrouve soit pendant le débat et surtout à la fin du débat pour une sorte de synthèse des discussions que vous aurez suivies. On va commencer avec vous, Claude Frey. Première question un peu personnelle. Qu'est-ce qui fait que vous montez aux barricades pour combattre cette révision de la loi ? On ne vous connaît pas forcément comme tireur. Vous avez des armes à la maison ?
J'ai des épées de collection, mais c'est tout. Je n'ai pas d'armes à la maison. Je ne suis pas tireur. J'ai un profond respect pour les tireurs, sportifs en particulier, ou pour les chasseurs. Mais je ne suis pas tireur. En revanche, je suis citoyen. Et je dois me prononcer sur la prochaine votation. Et je ne peux pas voter pour une loi dont on reconnaît qu'elle est inutile, qu'elle passe à côté de la cible. Parce que M. Fridé va pouvoir nous expliquer en quoi cette loi va permettre d'éviter des actes terroristes. Ils ont été accomplis avec des armes qui étaient déjà interdites et il est évident que ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien, mais c'est coûteux. Pour le seul canton de Neuchâtel, c'est le Conseil d'État qui le dit dans sa réponse au Conseil fédéral, c'est plus d'un demi-million par année que ça va nous coûter. 5 fonctionnaires de plus, dit le Conseil d'État. Alors, voter quelque chose d'inutile mais coûteux, désolé, mais je ne le peux pas.
Pierre-Alain Fridé, non seulement cette loi ne servirait à rien, et en plus, elle coûte de l'argent pour des cantons qui n'en ont pas forcément beaucoup.
Il faut être clair, le point de départ au niveau de l'Union européenne, ça n'a pas été la problématique terroriste. Elle a accéléré en fait la mise en application de cette règle suite aux attentats de Paris. Mais en fait, c'était en réflexion depuis un certain temps parce qu'on voulait en fait dans ces pays, sur l'ensemble du territoire européen, faire un peu disparaître des armes qui seront interdites, qui sont interdites maintenant, ces armes semi-automatiques, qui effectivement peuvent être dangereuses, parce que quand on a un forcené qui commence à tirer avec un fusil où il ne doit pas sans arrêt recharger, il fait beaucoup plus de dégâts que s'il a un fusil de chasse ou bien un fusil à un nombre de coups limité. Donc ça, c'était vraiment la décision. Nous, Suisses, nous sommes confrontés à une situation où l'Europe décrète quelque chose. Et nous sommes en fait, à cause du fait qu'on est entré dans Schengen, et je pense que là, M. Frey reconnaît l'intérêt de Schengen, je l'espère, nous sommes obligés, en fait, effectivement, d'accepter par la suite tous les développements de l'acquis de Schengen. Et c'en est un. On est effectivement mis un peu devant un fait accompli, mais ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que cette nouvelle réglementation aurait pu avoir des effets incroyables dans notre pays, parce qu'effectivement, nous sommes un pays particulier dans lequel il y a énormément de ces armes semi-automatiques, c'est les anciens fusils d'assaut. Et là, le Conseil fédéral, et je me permets de lire effectivement ce que le Conseil fédéral a pu négocier en l'introduisant dans la directive sur les armes de l'Union européenne. Alors, je cite, c'est Mme Sommaruga, c'est les services fédéraux qui ont réussi cette prouesse. Donc, on a adjoint le texte suivant. « Les États membres qui appliquent un régime militaire fondé sur la conscription générale et qui disposaient pendant les 50 dernières années d'un système de transfert des armes à feu militaires aux personnes quittant l'armée après avoir accompli leurs obligations militaires peuvent accorder à ces personnes, en leur qualité de tireurs sportifs, une autorisation de conserver une arme à feu utilisée au cours de la période militaire obligatoire. L'autorité publique concernée transforme ces armes à feu en armes à feu semi-automatiques. »
On comprend bien.
Du sur-mesure pour la Suisse. Ce qui fait que tous les effets négatifs terrible pour le tir sportif qu'on aurait pu imaginer, ben, tout est remis en question. Et en fait, il y a très peu de conséquences pour toutes ces personnes.
Alors, on va parler
de ces
enjeux.
Si vous permettez, j'aime bien Mme Somarunga, et c'est vrai, mais elle n'a pas fait une prouesse. Elle a simplement rappelé les engagements qui avaient été pris en 2005 lors du débat sur l'adoption de Schengen. Et là, l'Union européenne avait été très claire. On avait rappelé notre situation très particulière. Parce qu'au sein de l'Europe, on a une situation très particulière. On a un rapport apaisé avec les armes. On peut les avoir à la maison. Et imaginez d'autres pays qui les auraient à domicile avec les boîtes à cartouches, ça donnerait d'autres résultats.
Mais
on
il y a
un rapport
ans...
apaisé. Eh bien, en 2005, Bruxelles avait dit clairement qu'il n'y aura pas à abandonner la loi sur les armes et on sera absolument en accord avec vous quant à accepter une situation particulière. Ça, c'était 2005.
Ce n'était pas gagné en 2017, quand on a commencé à en parler. Le Conseil fédéral a fait des prouesses.
La Suisse a obtenu donc, pour certains, une grande concession. On va parler de tous ces enjeux, notamment pour certains, ai-je dit. On va quand même parler de ces enjeux, bien évidemment, ce débat sert à ça, mais avant tout, quand même, s'intéresser à une catégorie de personnes directement touchées par les changements dont on parle, ce sont les tireurs sportifs. Et comme nous l'explique Felicia Ernst, jeune tireuse neuchâteloise de 22 ans, qui dirige la formation des jeunes tireurs pour une société de tir de Val-de-Rue, il y a pas mal de choses qui pourraient changer, et plutôt négativement pour elle.
Concrètement, maintenant, si la loi passe aujourd'hui, ça ne va rien changer pour le moment. Seulement à partir de 2022, la loi va certainement se durcir et donc on devra refaire des demandes pour posséder les armes, demandes qui seront exceptionnelles et donc, comme le mot le dit, elles ne seront pas données à tout le monde. Maintenant, si chaque tireur doit refaire sa demande, ça signifie donc qu'on va perdre des membres et perdre des tireurs pour peu importe la raison que l'État décidera qu'ils ne sont plus aptes à avoir leurs armes.
Faire ces demandes exceptionnelles, ça consiste en quoi ?
Ça consiste à refaire des formulaires, refaire des demandes de casier judiciaire, redemander du temps et de l'investissement aux autorités pour qu'ils analysent chaque dossier, qu'ils prennent en compte toutes les mesures, les nouvelles mesures. Et donc ça va prendre du temps, de l'argent à tout le monde pour finalement pas grand-chose parce que ces mesures sont déjà actuellement, elles sont déjà là.
Et vous avez peur que justement ça décourage des tireurs populaires, des tireurs sportifs de continuer à tirer et puis du coup les sociétés de tir en pâtiraient et votre sport en pâtiraient.
Complètement parce qu'on voit déjà que dès qu'il y a un peu de paperasse, surtout les jeunes ont tendance à procrastiner de plus en plus, à repousser toujours plus loin et à finalement ne pas faire les demandes. Et certainement, ces nouvelles mesures vont demander des délais qu'il faudra respecter au jour même. Et donc, on va perdre des tireurs par ces délais, par la paperasse, par le temps que ça demande, par aller chercher un casier, imprimer une feuille, l'amener peut-être à une autorité, ou tous ces petits détails qui vont finalement décourager les gens, même les plus âgés qui vont devoir refaire leurs demandes régulièrement. À force, ça va être lassant et les gens vont se demander à quoi bon faire toutes ces démarches si c'est juste pour qu'on me leur demande dans 5 ans.
Dès l'adolescence, les jeunes sont formés au tir. Pour vous, cette directive, ça pourrait aussi décourager les parents d'amener leurs enfants aux sociétés de tir ?
Oui, tout à fait, parce que si on a une arme à feu, ça décourage déjà à la base une bonne partie des parents de nous envoyer leurs jeunes. C'est quand même quelque chose dont les gens ont plus ou moins peur, surtout qu'ils n'ont pas tout à fait confiance en leurs jeunes aussi, pour beaucoup, au maniement de l'arme. Après, si on interdit vraiment les armes, de plus en plus, ça va de plus en plus décourager les parents, décourager les jeunes, parce qu'on n'aime pas être hors la loi. En Suisse, on est quand même très carré pour la loi, on aime bien être dans les clous. Donc si on commence à être un peu à cheval sur la loi, gentiment, devoir passer de l'autre côté de temps en temps, même en restant dans des directives très larges, on va finir par perdre nos jeunes tireurs et perdre donc nos futurs membres de société. Et on va avoir nos rangs diminuer de plus en plus avec la paperasse qui va s'ajouter pour garder les armes. Ça risque d'être dévastateur à long terme.
Felicia Ernst qui répondait à Raphaël Girardin. Germain Beuclair, vous l'avez entendu, on le comprend bien, hein, les tracasseries administratives, ça ne réjouit personne. Hein. Mais est-ce que ce n'est pas un moindre mal, sachant qu'il s'agit quand même d'armes interdites et potentiellement très dangereuses ?
Il va de soi que j'abonde dans les paroles de Mme Ernst et du conseiller national neuchâtelois. Ce qui nous préoccupe des sociétés de tir, c'est que cette réforme va beaucoup trop loin. Nous craignons que la nouvelle législation marque effectivement la fin du tir en tant que sport populaire et suscite une méfiance générale à l'égard des propriétaires d'armes à feu. Telles sont les raisons pour lesquelles la communauté d'intérêt a saisi le référendum.
Oui, mais M. Beauclair, est-ce que ces armes... Est-ce que ces armes...
signatures.
Oui, mais ces armes sont très dangereuses. Est-ce que ce n'est pas normal, finalement, qu'il y ait quelques formulaires à remplir pour pouvoir les détenir?
Moi, personnellement, je suis détenteur d'armes. Ça ne m'a jamais gêné de fournir un extrait de mon casier judiciaire, d'autant plus qu'il est vierge. Tout le monde ne peut peut-être pas en dire autant. Juste en parlant de société de tir, pour nous, c'est un réel souci. Nous avons ce souci de ne plus être alimentés, comme l'a dit Mme Ernst, par la jeunesse.
Donc vous craignez que ce soit rédhibitoire pour les futurs membres. Pierre-Alain Fridet, est-ce que de telles dispositions se trompent pas cibles? Ce ne sont pas les armes des tireurs sportifs suisses qui sont en cause dans les actes terroristes, on l'a dit. Est-ce qu'on leur cherche pas des difficultés gratuitement?
Donc j'aimerais d'abord préciser que, véritablement, j'ai rien contre les tireurs sportifs. Mon père était tireur sportif, président de l'association des tireurs du district de Moutier à l'époque. Et quand j'entends Madame et M. Beauclair exprimer des choses, je dois dire que je tombe un peu des nues. Ce qui est clair, j'étais membre donc de la commission parlementaire qui a travaillé sur ce sujet. Les tireurs sportifs affiliés à un club de tir recevront automatiquement une autorisation de la part du canton. Il faut juste prouver qu'on est membre d'une société de tir, l'histoire est réglée. Les gens qui sont tireurs sportifs réguliers hors d'un club, ceux-là devront, au bout de 5 ans et au bout de 10 ans, prouver simplement qu'ils font du tir sportif. Tout le reste, c'est du blabla. Véritablement, maintenant, on est en train de nous dire que dans 3 ans, que pour l'instant, ça ne va rien changer, votre jeune tireuse l'a expliqué, et puis qu'en 2022, il y aura un durcissement. Je ne sais pas de quoi on cause. Véritablement, ces gens ne sont pas concernés, ils pourront continuer à pratiquer leur sport. On a réussi, grâce à la position du Conseil fédéral, à faire en sorte que les tireurs sportifs, les collectionneurs d'armes, puis les militaires après leur service militaire, sur la même base que les conditions antérieures, garderont le même vécu que maintenant par rapport à leur sport préféré.
Avant d'entendre Pierre-Alain Béret, Claude Frey, une réaction de votre part. Vous le dites vous-même, hein, cette loi ne sert à rien. Pierre-Alain Fridet le dit à sa manière, ça ne va pas changer grand-chose, voire quasi rien pour le tir sportif. Alors pourquoi la redouter à ce point ?
Claude Frey. Vous posez la question. Ah, vous me posez la question à moi.
Oui.
Non, mais alors j'aimerais dire à M. Fridet, il dit, je ne sais pas pour 2022. Moi, je sais. Il se trouve que tous les 5 ans, ces directives seront revues. Donc ça, c'était il y a déjà 2 ans. Il reste encore 3 ans, 2022. Et alors, moi, je me base sur M. Juncker, ce qu'il a dit. Il a dit, nous nous sommes battus avec persévérance pour une proposition ambitieuse. Bien sûr, nous aurions voulu aller plus loin. Mais je suis convaincu que la proposition actuelle représente un premier jalon dans le contrôle des armes à feu dans l'Union européenne. Alors c'est clair, la prochaine directive réexaminée, on passe à la casserole. C'est ça qu'on veut dire et que Mme Ernst voulait dire pour 2022.
C'est pas du tout clair.
Mais c'est pas du tout clair. La volonté
de l'Union européenne, c'est d'améliorer la sécurité par rapport aux armes.
Alors,
et la Suisse a un statut complètement particulier.
Non, mais je peux vous rappeler qu'on a eu une votation populaire avec le peuple et les cantons en 2011 qui se sont prononcés dans la votation populaire qui était de du Parti Socialiste notamment et de l'extrême gauche, protection face à la violence des armes, qui voulait justement des contrôles fortement renforcés. Et ben le peuple suisse et les cantons ont dit non à 57%. Ça n'est pas une directive qui doit faire revenir sur une décision prise démocratiquement par le peuple suisse, il n'y a pas longtemps, c'était en 2011.
Il y a donc une question de souveraineté là derrière. Pierre-Alain Béret, vous qui parlez au nom des milieux économiques, on l'a dit, est-ce que vraiment la Suisse doit à tout prix se conformer aux directives européennes? En quoi pour vous c'est important qu'on ne rate pas ce virage?
Bon, écoutez, la souveraineté, elle est évidente, elle est absolument nécessaire, mais ça ne veut pas dire qu'on doit s'isoler. Et quand on parle de sécurité notamment, on voit bien qu'on a besoin de coopérer avec nos voisins, parce que la criminalité n'a pas de frontières. Et donc reprendre à tout prix des directives, non. Mais lorsque ces directives, comme c'est le cas ici, sont utiles à la Suisse, sont utiles à notre sécurité, Je pense que je ne vois pas vraiment de raison de le refuser. Donc on va ici améliorer notre sécurité, on va préserver nos traditions. On l'a dit, hein, on va pouvoir conserver notamment la tradition de tir qui est importante en Suisse et que nous respectons totalement, bien évidemment. Donc à partir de là, eh bien, nous disons un grand oui à cette loi puisque nous y voyons que des avantages.
Même si Pierre-Alain Fridé, le peuple, hein, c'est Claude Frey qui vient de le rappeler, a quand même tranché la question en 2011. Pourquoi revenir sur ce qui a été décidé par le souverain ?
C'était pas la volonté du Conseil fédéral et de la Suisse. Simplement, on est confronté à une situation où on a accepté Schengen à l'époque, puis on a accepté les développements de Schengen. J'aimerais juste revenir sur 2022. Les législateurs de l'Union européenne ont souhaité en fait pouvoir régulièrement revenir sur ces objets parce que les armes peuvent évoluer et puis voir s'il fallait modifier la législation. Le particularisme de la Suisse est respecté, sera respecté, et comme cette fois, si effectivement il y a des modifications, elles vont toucher des choses peut-être différentes. En tout cas, les fusils d'assaut, ce dont on parle maintenant, ne sera plus jamais touché.
Deux éléments, Claude Frey. Les militaires peuvent conserver leur arme d'ordonnance, les tireurs sportifs peuvent poursuivre leur discipline, les chasseurs ne sont pas concernés. La Suisse a obtenu une loi sur mesure, non ?
Non, parce que j'observe que 18 cantons, lorsqu'ils ont été consultés, ont rejeté ce projet. Il n'y en a que deux qui l'ont accepté, c'est Bâle et Ville, et c'est Vaud, du canton à majorité socialiste au passage. Et que le canton du Jura, M. Fridé, a dit « Ce texte n'est d'aucune utilité, il n'aura aucun effet réel sur le terrorisme. » C'est le Conseil d'État du canton du Jura, le gouvernement du Jura qui le dit. Quant à Neuchâtel, ils ont dit « C'est inutile et irréalisable. » Ils étaient contre en précisant le coût de l'opération, et je l'ai dit, c'est 5 fonctionnaires de plus dans un canton de Neuchâtel exsangue qui cherche à faire des économies partout, et c'est plus d'un demi-million chaque année. Voilà la réalité.
Germain Beuclerc, vous nous avez dit que vous n'avez pas de problème, vous, à fournir votre casier judiciaire, d'autant plus qu'il est vierge, on s'en réjouit, mais expliquez-nous peut-être, pour qu'on comprenne bien, qu'est-ce qui peut gêner vos membres, les membres des sociétés de tir, à devoir finalement remplir des obligations administratives, sachant que dans la vie, on est amené à en remplir pour beaucoup de choses qu'on possède. Hein.
Oui, bien entendu, mais la partie administrative, c'est que l'iceberg que l'on voit, il y a tout ce qui est dessous avec les armes, avec nos fusils d'assaut 57 et 90. Par exemple, avec le fusil d'assaut 90, l'UE conteste qu'on ait des magasins de 20 coups. Moi, il me faut à peu près 2 secondes pour changer de magasin. Qu'il en ait 10 ou 20, c'est la même chose. Donc, c'est sur le principe que nous ne sommes pas d'accord. Parce que nous partons aussi du principe que le citoyen suisse, le soldat suisse, est conscient de ses responsabilités. Il est apte à maintenir cette arme, il est entraîné à tirer avec, à la maintenir en état. Je prends comme preuve, en 2017, nous avons organisé dans le Jura bernois le tir cantonal bernois. Nous avons eu plus de 11 000 tireurs, pas un seul accident. Pas une cartouche qui s'est promenée n'importe où, rien du tout. C'est la preuve, noir sur blanc, que le citoyen soldat est conscient de ses responsabilités. En 2023, le canton du Jura aura son tir cantonal et sera présidé par un ministre actuellement. Vous savez, Monsieur Fridé, c'est très bien de qui je parle. Et je leur souhaite aussi, au canton du Jura, d'avoir le même succès que nous. Et le principal pour nous, c'est pas d'accident.
Monsieur Beuclerc, c'est clair. Monsieur Beuclerc, on vous entend, on est d'accord avec vous. Et cette loi ne va en rien modifier les choses. J'aimerais juste revenir encore par rapport à ce que disait Monsieur Frey. Actuellement, tous les gouvernements cantonaux romands, à ma connaissance, sont en faveur du oui. Et les coûts dont on parle, ils sont moins importants que ceux dont on parle. C'est peut-être pour le canton du Jura un demi-poste supplémentaire, peut-être un poste, c'est tout.
Pierre-Alain Béret, vous vouliez réagir.
Alors précisément, ces coûts de mise en œuvre, je crois qu'il faut les mettre en relation avec les coûts d'une sortie de l'espace Schengen pour la Suisse, hein, puisque si nous refusions cette nouvelle loi, eh bien, ça entraînerait une exclusion très probable de l'espace Schengen. Et là,
c'est
évidemment,
que je conteste, alors.
Absolument probable, puisqu'il faudrait, pour l'éviter, que l'ensemble des pays membres, plus la Commission européenne, plus la Suisse, décident l'inverse dans un délai de 90 jours. Donc ça fait quand même courir un risque important à la Suisse. Et donc ces coûts, eh bien, ils ont été aussi estimés. Alors on peut toujours faire des guerres de chiffres, mais on, certains rapports les estiment à plusieurs milliards de francs pour l'économie suisse, liés au rétablissement de contrôles plus stricts aux frontières, aux contraintes accrues pour voyager, au fait que les trains qui passent la frontière devraient probablement s'arrêter, subir des contrôles réguliers au quotidien, etc., etc. Sans parler aussi du tourisme lié au visa Schengen. Donc ce sont des grandes pertes auxquelles il faut s'attendre pour l'économie.
Ça, il faudra qu'on reprenne dans le détail, si vous le voulez bien passer trop
oui, énorme. On laisse finir Pierre-Alain Béret.
Oui.
Voilà, on les reprendra volontiers dans le détail. Dans
des
le,
milliards dans de le francs, de, voilà. On parle quand même de pertes à hauteur de milliards de francs selon des experts mandatés par Économie Suisse, en tout cas cités par eux. C'est des chiffres aussi cités par la Confédération. Claude Frey, en quoi vous pouvez garantir aux votants qu'en cas de refus de cette loi, la Suisse pourrait rester dans Schengen alors qu'il y a quand même une clause couperet?
Ce que je veux dire, c'est que quand on a une loi inutile qui coûte de l'argent, on a recours à la peur. C'est ça ou le chaos. C'est un principe bien connu quand on veut faire passer quelque chose qui n'est pas populaire. Alors, moi, je pense qu'il y en a d'autres personnes qui partagent un autre avis que M. Béret et qui sont membres, par exemple, du comité d'économie suisse. Je prends une citation du président du conseil d'administration de la Baloise Holding, M. Andreas Burkhardt, qui dit quelque chose d'intéressant. Il a passé pas mal dans les médias ces temps. La menace Schengen est, pour ainsi dire, bizarre, dit-il. La décision relative à la continuation de l'accord est politique et pas juridique. L'Union européenne a tout intérêt à ce que la Suisse demeure dans l'espace Schengen. Alors, M. Béret, avec les trains qui s'arrêtent à la frontière, arrêtez, je vous en prie, avec les touristes qui ne pourront pas venir, les Chinois qui ne pourront pas venir en Suisse. Mais les Chinois, il suffit que pour la Suisse, on dise unilatéralement que le visa Schengen est valable. Et ils entreront. C'est une décision du Conseil fédéral que le Conseil fédéral prendra seul, en pleine responsabilité, et qui dure 3 minutes. C'est ça la peur dont on veut nous faire peur. Pas pour lutter contre le terrorisme. Ce qu'il faudrait faire dans certains cas, et même M. Macron l'a dit, c'est renforcer les contrôles aux frontières. Parce que quand il y a eu les attentats, si vous regardez, ils ont eu des armes illégales, mais ils ont pu circuler absolument librement de la France, en Belgique, en Allemagne. Ils ont même traversé chez nous.
On s'en souvient.
Ça, ce serait autre chose et ce serait une meilleure sécurité.
Pierre-Alain Béret, vous peignez le diable sur la muraille. Vous jouez à nous faire peur.
Pas du tout, absolument pas. Simplement, on part de la situation actuelle telle qu'elle est depuis une dizaine d'années, depuis que la Suisse est membre de l'espace Schengen, et on voit bien les avantages au quotidien que les gens en retirent, principalement d'ailleurs dans des régions frontalières comme les nôtres, où les gens passent régulièrement la frontière. On s'est habitué à ce que la frontière soit franchissable plus facilement. Ça procure des avantages importants pour voyager, je crois que c'est indéniable. Les formalités douanières sont simplifiées, il n'y a plus de queue dans les aéroports. Tout ça, c'est une réalité aujourd'hui. Et je ne suis pas certain que la population qui s'est habituée à ces facilités accepte aujourd'hui de revenir en arrière facilement.
La sortie de l'espace de coopération Schengen-Dublin, c'est un scénario évidemment qui inquiète les polices du pays parce que l'espace Schengen offre une source précieuse d'informations, soit le système d'information Schengen, le SIS. Un gros enjeu pour Pascal Lutti, le commandant de la police neuchâteloise.
Un gros enjeu puisque ces directives finalement sont une des règles qui s'applique dans l'espace Schengen. L'espace Schengen, c'est vraiment un espace de gestion commune de la sécurité, un espace de partage d'informations policières au quotidien. Et évidemment, pour que ce partage ait lieu, il faut une grande confiance dans les partenaires. Et cette confiance passe par le respect des règles. Et ces règles, elles évoluent avec le temps. Elles n'ont pas été figées une fois pour toutes. Et ce qu'on voit aujourd'hui ici, c'est l'évolution d'une de ces règles qui entraîne des modifications de notre loi sur les armes.
On pourrait se dire, Pascal Lutti, qu'on n'a pas attendu l'espace Schengen pour échanger des informations. Est-ce que vraiment, ce serait un risque au niveau de la sécurité que de s'en extraire ?
Complètement, parce que l'échange d'informations, finalement, derrière échange d'informations policières au sens standard, au sens international du terme, il y a une grande lenteur. C'est aussi un échange à bien plaire. Ce qu'on observe dans l'espace Schengen, ce qui a vraiment été révolutionnaire, ce n'est pas vraiment tellement l'échange, c'est le partage instantané des informations et l'engagement des pays membres de l'espace Schengen à agir sur ces informations. Lorsque la Suisse signale une personne pour être arrêtée, lorsque la Suisse signale une personne pour être surveillée étroitement, si cette personne fait l'objet d'un contrôle partout dans l'espace Schengen, eh ben, des conséquences seront faites, des actions seront faites, des arrestations seront faites, des extraditions, des surveillances, et tous les membres de l'espace Schengen s'engagent à agir sur la base de ces informations. Finalement, sans l'espace Schengen, c'est une quantité de criminels indésirables en Europe qui pourraient circuler librement en Suisse. C'est des quantités de criminels qui ont commis des actes en Suisse qui pourraient circuler librement en Europe sans être inquiétés, en passant la frontière, se racheter une virginité. C'est effectivement être à peu près sourd et aveugle dans notre poursuite pénale. Du moment que notre pays étant très petit, les criminels peuvent passer d'un côté à l'autre de la frontière. Et j'aimerais préciser ici que le retour d'un contrôle aux frontières n'est pas la réponse à ceci, contrairement à ce que c'est un peu pensé. Lorsqu'un contrôle plus systématique aux frontières se fait, on sait aujourd'hui que ça dépasse à peine 3% des personnes qui sont contrôlées.
Mais les opposants à la directive le disent, ça paraît quand même difficile à imaginer que l'Union européenne veuille exclure la Suisse de l'espace Schengen, alors que le changement dont on parle dans le milieu du tir en Suisse ou dans le milieu des possesseurs d'armes est minime. On peut quasi parler de broutille.
Vu de l'Europe, le renforcement des mesures de contrôle sur les armes semi-automatiques n'est pas du tout perçu comme une broutille. Il faut savoir que l'Europe a été beaucoup plus touchée que nous en termes d'attentats. Et la sensibilité de nos partenaires sur ces questions est très élevée, première chose. La deuxième chose, je pense qu'il est important, et très important, pour l'espace Schengen, et donc pour la Suisse aujourd'hui qui en fait partie, que cet espace soit géré avec des normes strictes et pas un espace à la carte. Donc moi, je suis tout à fait à l'aise avec le fait que quelqu'un qui ne respecterait pas les règles de cet espace Schengen en soit exclu. Donc partant de là, si la Suisse décide de ne pas respecter ces règles de l'espace Schengen, je pense qu'elle doit s'attendre à être exclue. Et c'est normal, sinon cette grande confiance entre polices ne pourrait pas exister.
Pascal Lutti, commandant de la police neuchâteloise. Un dernier tour de table avant de retrouver Jérôme Favre sur cet aspect sécuritaire. On commence par vous, Claude Frey. Est-ce que, si vous ne croyez pas aux conséquences économiques, est-ce que la Suisse n'a pas trop à perdre, tout simplement au niveau sécuritaire ?
Alors l'échange, le commandant Lutti a raison, d'échange d'informations au sein de l'Europe est quelque chose de très important, de tout à fait essentiel. J'observe que nous sommes le bon élève de la classe, comme d'habitude, que nous sommes au centre de l'Europe. Et je ne peux pas imaginer qu'on bazarde Schengen l'échange d'informations, parce que sur ce point de détail des armes, dit-on, eh bien, on n'aurait pas accepté jusqu'à la dernière virgule les modifications.
Donc vous croyez au rapport de force, la Suisse peut rester dans l'espace Schengen, si
je
comprends bien.
Ce que je crois, c'est que nous avons une Union européenne qui constamment a recours au chantage. C'est ça ou le chaos. On a l'immigration massive des étrangers, l'initiative de l'UDC que je n'ai pas votée. 50 et quelques pourcents l'ont voté. Qu'est-ce qu'on a fait ? Eh bien, on a coupé la recherche. Maintenant, c'est la menace de l'équivalence boursière et ainsi de suite.
Donc,
eh bien,
vous refusez ce dialogue de chantage avec l'Union européenne ?
Moi, je pense que nous n'avons pas à juger d'un texte en fonction des représailles qu'il peut
on
avoir,
vous a bien
mais
compris.
De l'importance de ce texte.
Pierre-Alain Fridet.
Je pense que M. Frey est sincère. Il veut effectivement...
Je vous remercie beaucoup. Ça me permettra de...
J'aimerais juste m'exprimer un petit peu, M. Frey.
Je pense
qu'effectivement, il est sincère. Il ne veut pas sortir de Schengen. Mais je rappelle quand même qu'au Parlement, c'est l'UDC qui portait effectivement les stockades sur ce sujet. Et la majorité des gens de ce pays, notamment M. Adore, qui est le grand leader en Suisse romande, ils veulent sortir de Schengen. Et ils utilisent effectivement cette loi dans ce but. Donc, M. Frey, les choses ne sont pas aussi claires. Et il faut effectivement, on sait ce qu'on a, on ne sait pas ce qu'on aura après. Le Brexit nous montre que c'est compliqué.
Pierre-Alain Béret, c'est justement ça que vous craignez, l'incertitude ?
Alors évidemment que ça n'est jamais bon pour l'économie d'avoir une situation juridique incertaine et nos relations avec l'Europe en général, hors de tout chantage, mais nos relations pour nos entreprises, elles sont fondamentales. Hein, c'est quand même notre principal partenaire économique, plus de 60% de nos exportations, de nos importations. Et puis peut-être il y a un point dont on n'a pas parlé encore très brièvement, c'est Dublin, puisqu'on sortirait aussi de l'accord Dublin qui permet, lorsqu'un réfugié a déposé une demande et qu'elle a été rejetée dans un des pays, de la rejeter également. Donc ces procédures sont simplifiées. Il faut s'attendre, si on sort de cet accord aussi, à ce que tous les requérants déboutés ailleurs en Europe déposent une demande en Suisse. Ça fera un volume incroyable à traiter et ça coûtera également très très cher.
Germain Beuclerc, votre mot de la fin rapidement, est-ce que vous craignez pas quand même qu'au niveau sécuritaire on ait tout à perdre ?
Non, je ne pense pas. J'aimerais terminer, moi, pour ma part, en relevant quand même que la communauté européenne bénéficie des largesses de la Suisse, puisque nous participons à raison de 7,3% annuellement en tenant compte de l'inflation, ce qui représente un montant de plus de 8 millions de francs par année,
la
plus de temps en temps encore des gestes, comme on a vu au début de l'année, en donnant à Bruxelles un milliard, tout simplement. Je n'y crois pas.
Merci, Germain Beuclerc. Jérôme Favre, très rapidement, si je puis vous demander, qu'est-ce que vous retenez de cette discussion? Qu'est-ce qu'on peut souligner en termes de synthèse?
Mais une chose intéressante, c'est que on a parlé de la loi pendant toute la première partie de ce débat, alors que la plupart du temps, on parle de si oui, alors qu'est-ce qui se passera plus tard? Et on nous dit que d'autres mesures viendront, qu'on durcira la loi. Et sinon, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on va sortir de Schengen et il y aura des implications dramatiques pour l'économie, etc. Donc c'était très intéressant de revenir aussi au cœur de ce qui est soumis au vote populaire le 19 mai, c'est-à-dire cette loi sur les armes et d'avoir pu parler des changements qu'elle va amener. Mais par contre, effectivement, le débat a raison aussi de voir plus loin. Il y aura des conséquences, quelle que soit la décision, très vraisemblablement. Et là, il faut que chaque citoyen puisse être en mesure mais je crois que le débat a pu y aider, de choisir en fait et de faire une pesée d'intérêts pour savoir qu'est-ce qu'il est prêt à accepter comme conséquence suite à cette loi qui, on l'a dit, ne changera finalement pas grand-chose.
Merci à tous d'avoir participé à ce débat. Place Publique, vous le retrouvez bien sûr en ligne tout à l'heure. On vous souhaite une bonne soirée.
Bonne soirée, merci.
Bonne soirée, merci.
Place Publique.